Donc Caroline Jonassian a plusieurs casquettes puisqu'elle est présidente des Clionautes. Elle est également professeure associée à l'INRP. Alors, je ne sais pas dans quelle casquette tu portes aujourd'hui, peut-être plusieurs. Tu portes la casquette de l'INRP,
merci
d'accord.
De faire la pub, c'est très sympa.
Bon, si tu veux rajouter quelque chose à ton CV, on t'écoute. Je t'arrêterai de 2 minutes avant la fin si tu débordes, je te préviens.
D'accord. Donc, de dégager une typologie d'usage. Évidemment, ça bloque mon ordinateur maintenant. Et donc, j'ai fait cette recherche... je pense que c'était aussi pour dans le cadre du projet performance pour essayer de voir un petit peu comment on allait organiser cette formation de formateurs et puis pour donner un petit peu de l'idée puisque dans performance c'est un peu essayer de donner l'idée aux gens et l'envie aux gens de s'emparer de ces outils, notamment là j'ai travaillé sur les globes virtuels, donc l'idée de s'emparer de ces outils. Donc, de voir ce qui existe déjà, ça permet peut-être de donner envie, de donner d'impulser le phénomène. Alors, j'ai fait une petite enquête au départ avec des mots-clés que je vous ai mis là, mais qui sont vraiment... c'était vraiment très, très limité comme réflexion. Mais enfin, on est tombé quand même déjà sur pas mal de choses. Et puis maintenant, donc, j'essaie de maintenir une veille qui n'est pas forcément très évidente et que j'ai pas le temps. J'ai pas, évidemment, c'est pas exhaustif, j'ai pas épuisé le web, les séquences sur le web. Donc maintenant, avec la liste géomatique, les gens commencent à diffuser de plus en plus ce qu'ils font, et les blogs et les sites qui sont un peu dédiés. Donc il y a une veille un petit peu collective qui permet d'élaborer, de regarder un petit peu. Donc on a, je crois que c'est l'équipe de Montpellier qui a élaboré une fiche qui permet de classifier un petit peu les choses, de décrire un petit peu les séances. Alors, j'ai un peu peur si je vous la sors. J'ai un peu peur. L'ordinateur est pas très... Je le connais pas bien, donc j'ai un petit peu peur que ça bloque si je clique sur la fiche. Voilà. Voilà, évidemment, impossible d'ouvrir le fichier. Donc, c'est une fiche que je peux vous montrer à partir de là. Donc, une fiche d'identification des ressources avec une description... peut être assez fine, le titre, la source, les auteurs, et puis le type d'activité proposée. Donc ici, c'est la première version. Avec cette typologie, ça permet d'affiner un petit peu cette rubrique type d'activité, et puis les compétences qui sont mises en œuvre, les outils utilisés, les productions, l'évaluation. Donc ça rejoint un petit peu les questions qu'on s'est posées tout à l'heure. Donc... cette enquête a révélé pour l'instant, et c'est toujours en cours de continuation, a révélé 53 activités pour l'instant, et donc avec 53 fiches, desquelles j'ai tiré une sorte de typologie d'activités mises en œuvre que j'ai regroupée sur les conseils de Sylvain Genevoix en trois catégorie. Donc la géo-exploration, là ce sont plutôt des séquences qui permettent soit de découvrir des lieux, par exemple j'ai un collègue Anthony Lozac qui a fait une séquence en éducation civique sur les lieux de pouvoir à Paris, donc il a localisé les lieux de pouvoir et puis à partir de là des petites questions dans les repères, des liens vers les sites qui permettent d'explorer ces lieux un peu plus en profondeur. Donc c'est essentiellement ici découvrir des lieux, ça peut être en histoire, ça peut être aussi en géographie, ça peut être aussi découvrir un phénomène. Donc là c'est récemment Jean-Marc Kinner qui a fait un KMZ sur la crise alimentaire qui est excellent, les thématiques du programme de seconde, les grands chantiers en France, il y en a plein, il y a le vin, il y a donc un phénomène qui est localisé grâce à l'aide de Google Earth, et puis des corpus documentaires. Par exemple sur Limoges, je crois que je l'ai mis ici, Limoges en 1905, donc avec, vous avez des lieux, des cartes anciennes, aucune activité n'est proposée, mais ça permet à l'enseignant de s'en emparer ou de s'en emparer, de créer une séquence pédagogique à partir de ces données qui sont rassemblées, qui sont mises en ligne. Donc là, je ne suis pas connectée, hein, donc... Vous avez juste les données qui sont rajoutées. Voilà, donc c'est un exemple de ce qui peut exister comme corpus documentaire. Un autre type d'activité va un petit peu plus loin dans la géographie, dans les compétences de géographie. Ce sont des activités ce qu'on appelait géolocalisation, c'est-à-dire des activités de localisation et de repérage. On voit une sorte de progression un petit peu dans ces types d'activités. Après l'exploration, on peut passer à une localisation plus fine. Donc ça peut être des activités qui demandent de trouver un repère terrestre à l'aide de ses coordonnées, ou d'informations précises. Je pense notamment aux énigmes de place spotting, par exemple, quand on fait créer une énigme de place spotting, ou quand on demande aux élèves quand on crée des devinettes pour les élèves, ça met en œuvre ce type de compétences. Ce sont des activités qui demandent aussi de visualiser un emplacement. Il y a des activités sur les reliefs, par exemple, qui permettent de visualiser ce que c'est qu'une vallée, donc d'utiliser du vocabulaire, de visualiser des mots de vocabulaire, par exemple, ou de visualiser des lieux. Ça peut être en histoire aussi, par exemple, Jean-Marc Kinner a fait un KMZ sur la Révolution française. Et ça peut être également localiser des informations qui sont fournies par un autre document, et notamment des activités, que ce soit en histoire d'ailleurs ou en géographie ou en éducation civique. Vous avez un texte et vous localisez les événements, soit les étapes du récit. Ça peut être aussi localiser les étapes du voyage d'un porte-conteneur, qui est un exemple plutôt connu, ou du costume de Barbie par Cécile Dejoie et puis... David Landry. Donc, le travail sur Thalassa aussi. Il y a un reportage sur Thalassa, un documentaire de Thalassa sur le voyage d'un porte-conteneur. Donc, il y a un collègue, Wilfried Cariou, qui a localisé et qui a travaillé à partir de ce document vidéo et qui a localisé les informations vidéo sur Google Earth. Deuxième compétence. C'est savoir identifier, donc savoir reconnaître un objet géographique sur l'image. Donc c'est de la lecture de photographies aériennes. Ça peut être aussi de la lecture de cartes IGN, donc à partir du géoportail essentiellement. Localiser, c'est aussi décrire. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, décrire, c'est décrire ce qu'on voit sur la photo. Par exemple, Jean-Marc Kinner, dans son travail sur les littoraux asiatiques, il a placé des repères et il demande aux élèves, qui sont évidemment choisis pour leur pertinence par rapport au thème étudié, les littoraux asiatiques, il demande de décrire. Ça permet d'utiliser du vocabulaire, ça permet de rendre concret ce qui reste en général abstrait dans le vocabulaire qu'on emploie. Ça peut être aussi l'inverse, la démarche inverse, c'est-à-dire on donne pas le mot de vocabulaire, on donne le mot de vocabulaire et on demande d'utiliser la photographie aérienne ou l'image satellite pour trouver la définition du mot. Et enfin, ça peut être aussi utilisé, c'est ce qui fait d'ailleurs aussi sur les littoraux asiatiques, ça peut être aussi différencier des zones sur une image. Dernière compétence dans ce type d'activité, c'est la comparaison, donc comparer carte et image, comparer paysage et image aussi, et puis comparer différents types d'objets à partir des images de Google Earth, par exemple les différentes formes de villes américaines. Enfin, last but not least, la visualisation. Donc c'est une définition de Sylvain qui m'a envoyé hier soir, merci Sylvain. Rendre visible ce qui est invisible, c'est-à-dire essayer de dégager de ce qu'on voit, d'en dégager une organisation de l'espace, une analyse, c'est expliquer, trouver une explication à ce qu'on voit. J'ai mis quelques exemples. Ah oui, on parlait tout à l'heure du Québec. Au Québec, ils ont des activités tout à fait passionnantes dès le collège. Donc ici, c'est expliquer l'organisation du territoire à partir de l'histoire, à partir du plan d'une seigneurie. Analyser, c'est analyser par, ça peut être la séance qui aboutit à un schéma d'organisation, à un croquis de géographie. Ça peut être aussi aboutir à la définition d'une notion un peu complexe, la notion de métropolisation, la notion d'aménagement du territoire, etc. Et c'est aussi construire, ça peut être aussi des activités qui amènent à la construction de quelque chose. Donc construction d'un dossier documentaire, par exemple, sur les voyages des grandes découvertes. C'est aussi un dossier documentaire sur l'environnement local. Ici, Yves Guillet qui fait construire une carte collective avec les fiches de rentrée. Il y a aussi, j'ai vu passer aussi la création d'un paysage interactif. Et enfin, pour moi, c'est quelque chose que j'ai vécu avec Google Earth. Ce sont des outils qui permettent aussi de mettre en œuvre des notions de géographie pour pouvoir argumenter, de les utiliser dans une démarche géographique ou citoyenne, comme l'a montré mon collègue tout à l'heure. Utiliser les informations qui sont fournies par le prof pour construire une argumentation ou la présenter. Donc, je ne suis pas du tout sûre de moi dans cette typologie-là. C'est vraiment quelque chose qui est en construction, de laquelle je ne suis pas du tout familière. Donc, c'est vraiment quelque chose sur laquelle j'avais déjà dit en mars, je compte sur vous pour m'aider. J'ai pas été très entendue. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en construction. Je ne suis absolument pas, c'est pas quelque chose de définitif. Donc, j'espère bien qu'il y aura un retour là-dessus, parce que c'est pas fini encore. Alors, je vous ai mis les chiffres en premier. J'ai pas fait exprès, mais je trouve ça assez rigolo. J'ai fait des statistiques sans test du qui de, rien du tout. Juste, j'ai fait des petits bâtons. Alors, à votre avis, dans cette typologie, visualisation, exploration et puis localisation, qu'est-ce qui arrive en premier? Qu'est-ce qui est le plus représenté dans ce qui est proposé? Effectivement, alors c'est la localisation, notamment les repères terrestres. On a des activités, de repérage. Puis le deuxième vainqueur, numéro 2, c'est la visualisation. Et alors, par contre, l'exploration, évidemment, est moins représentée. Alors, je dis évidemment parce que j'ai mis deux limites, il y en a trois. Je dis évidemment parce que je pense qu'il y a, d'abord, il y a un problème pour faire des statistiques là-dessus, c'est qu'une séance peut rassembler, évidemment, de la visualisation. J'ai pris en compte simplement la compétence maximale qui était mise en œuvre dans les séquences, et encore celle que je pouvais voir au travers de ce qui était communiqué. Donc c'est vraiment très fragile comme chiffre. Et ensuite, je dis évidemment aussi parce qu'il y a une progression dans chacun de ces types, il y a une progression. Il faut maîtriser bien mieux Google Earth et la pédagogie, la démarche pédagogique pour mettre en œuvre une séquence qui soit de l'exploration. C'est quelque chose qui est difficile. Ça relève de la pédagogie de projet aussi, ce genre de choses. Ça relève aussi ça met en œuvre à l'intérieur du logiciel, ça demande une maîtrise du logiciel qui est beaucoup plus poussée. Donc, on peut comprendre qu'il n'y ait pas beaucoup d'exemples d'exploration. Ceci dit, de plus en plus, là, j'ai refait mes statistiques j'ai refait mes chiffres. Je ne vais pas dire statistiques parce que mon mari qui fait des statistiques va me gronder. Mais j'ai refait mes chiffres depuis le mois de mars et pratiquement, je crois que sur une dizaine de fiches, il y a une majorité qui est du domaine de l'exploration. Donc il y a une progression, disons qu'on a l'impression que ça progresse et que les gens qui mettent en ligne des choses de plus en plus complexes. Et peut-être aussi que c'est parce qu'on en est qu'au début et qu'au fur et à mesure les gens vont prendre un petit peu d'assurance. bien sûr, il y a une progression technique, mais finalement, je me suis aperçue aussi qu'il y avait des instituts du primaire, je pense à Pascal Bouche, mais il y en a d'autres aussi, qui font des choses au primaire qui sont bien plus complexes que ce qu'on ose faire en terminale, finalement. Parce que les élèves du primaire aujourd'hui sont bien plus à l'aise en informatique que les élèves de terminale, et donc on peut faire des choses maintenant très jeunes qu'on pouvait pas faire, alors que dans des classes supérieures, on peut pas encore les faire, parce que les élèves progressent. Et voilà mon troisième, c'était le troisième point, c'est qu'il y a encore des changements dans des séquences de plus en plus élaborées. Alors, j'ai regardé un petit peu quelles étaient les postures de classe qui étaient employées, et alors trois postures essentiellement. Alors, du cours magistral, beaucoup, et notamment parmi les séquences les plus anciennes, c'est-à-dire que Google Earth, Géoportail, etc., sont utilisés pour appuyer un cours sur l'aménagement du territoire, sur la baie de Kobe, sur voilà. À la rigueur, à la fin, l'élève doit recopier ou peut-être produire, mais plus souvent recopier le schéma d'organisation de l'espace ou le croquis de géographie. Il y a beaucoup de séquences avec des questionnaires, un travail très guidé avec des questions sur les lieux, qu'est-ce que vous observez, à la rigueur capture d'écran, et puis vous classez votre capture d'écran dans un tableau, etc. Mais de plus en plus de travail en autonomie, où, comme on le disait tout à l'heure avec Cyril et ce matin aussi avec le collègue québécois, enfin qui vient de Laval, c'est que de plus en plus... on sent qu'on laisse de l'autonomie aux élèves, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui décident de quels outils ils vont employer pour résoudre leurs problèmes. Et ça, j'ai vu une progression, alors qui est petite, hein, sur 53, on ne peut pas non plus constater beaucoup de choses, mais en 3 mois, quand même, j'ai constaté que les fiches étaient plus dans ce type de travail-là. Et les sujets traités, il y a 7 séquences en histoire et une qui fait histoire éducation civique en même temps, 47 en géographie, ça fait 5, oui, c'est parce que j'ai une fiche qui reprend 2 séquences, donc ça fait 54. La France, la géographie de la France à 32%, et j'ai pas vu beaucoup de séances sur les géoportails, mais ça devrait venir avec EduGéo. Le monde, notamment sur la mondialisation. Les États-Unis à 15% des séances. C'est essentiellement de la géographie urbaine, où on parle de métropolisation, du concept de métropole, de l'évolution urbaine, etc. Mais ça sert aussi, ces outils, ces globes virtuels, servent aussi à faire passer des notions qui sont difficiles à faire entendre en cours de géographie, notamment l'aménagement du territoire, la notion de mondialisation, c'est quelque chose qui... on a l'impression qu'il est propice à l'utilisation de ces outils à bon escient. Et quant aux outils, Google Earth, 80% des séances, Google Maps, 15%, et le géoportail, 5%. Mais là encore, peut-être, je n'ai pas fait d'enquête sur les raisons de ce déséquilibre, mais peut-être que Google Earth est plus souple et permet d'avoir des données peut-être moins précises, mais en plus grand nombre, puisqu'on construit son propre dossier de données. Donc c'est possible que ce soit la cause du déséquilibre. Donc je vous passe des compléments. Souvent, les compléments sont utilisés en plus de ces outils-là, de ces globes virtuels. Donc logiciel, site internet, des textes. Et puis alors, j'ai pas rajouté, mais j'aurais dû rajouter, puisque là, il y a un collègue du primaire qui fait quelque chose qui est fabuleux. Il commence par donner envie aux élèves d'avoir une boussole, d'avoir une règle, etc. Et ensuite, il utilise, je crois que c'est Google Earth, en disant, mais quels outils vous voulez, de quels outils on va avoir besoin là ? Puisqu'on a une représentation de la Terre, pour se situer sur cette Terre, pour décrire ce qu'on voit, de quels outils on aura besoin. Et donc, il active ensuite les outils de Google Earth. Donc là, j'aurais pu rajouter boussole, règle, et puis appareil photo, parce qu'il fait prendre des photos dans la cour, enfin autour du de l'école. Voilà. Et donc, les choses vont peut-être changer avec EduGéo qu'on nous a présenté tout à l'heure. Je n'ose pas dire Navidis, parce que ce n'est pas tout à fait le même genre d'outil. Voilà, est-ce que vous avez des questions ?
Merci Caroline. Donc je vais passer le micro dans la salle s'il y a des questions. Ludovic.
Oui, dans toutes les activités que tu as vues, est-ce qu'il y en avait où l'élève construisait lui-même ses propres cartes, intégrait son lot de données, enfin, créer quelque chose seul?
Alors, son lot de données, c'est pas aussi poussé que ce que toi tu fais quand tu fais. J'ai pas vu, par exemple, de séquences publiées où on rentre les coordonnées GPS, etc. Ça, c'est pas encore le cas. Mais par contre, il y a déjà des créations de cartes, de maps, de Google Maps ou de KMZ. Par exemple, il y a les Google Lit Strips, donc c'est des voyages littéraires que moi j'ai pratiqué avec les grandes découvertes, les textes des voyageurs des grandes découvertes. J'ai fait aussi un truc avec ma mère au Mali, donc où à partir du blog, ils construisaient le parcours. Et je sais, mais c'est pas publié, mais je sais qu'il y a des collègues de langue qui font ça quand ils ont fait un voyage à l'étranger, qui font construire le récit de voyage avec leurs données photos, leurs données textes. J'ai pas de son, par contre. Ça, je sais pas pour le reste. Mais je sais que ça existe, mais je suis pas tombée dessus sur le web encore. Il y a des tas de choses qui existent. Préparer un voyage, par exemple. Oui. J'ai un collègue qui a fait ça, mais il n'a pas publié. Donc,
Des cartes thématiques ou des croquis ou des schémas structuraux. Est-ce que tu as vu ça en histoire géo?
Alors.
Créé par l'élève.
Créé par l'élève, oui. Tant que je réfléchisse. Ça arrive de temps en temps qu'il y ait des séquences où l'élève crée son schéma sur papier. Je ne crois pas avoir vu encore une séance où on lui fasse créer des pour lui-même sa zone là, comme ça.
L'utilisation des polygones.
Des polygones. Ouais. J'ai pas vu encore. Je crois pas. Mais ça doit exister. Il n'y a pas de raison. Par contre, j'aimerais bien que si vous avez des retours sur la typologie, j'aimerais bien que...
Si tu veux, sur la typologie, on avait commencé avec la typologie que j'ai présentée ce matin avec performance. Vous en avez vu avec, quand on avait travaillé sur l'enquête, une typologie en quatre parties, où ça c'est quatre niveaux. Ça nous permettait de distinguer, par exemple, tout ce qui était traitement de l'information, où on a rentré là dans des fonctions plus SIG que globe virtuel, mais les globes virtuels permettent ceci, donc... Voilà. Alors, du coup, tu l'as pas intégré dans ta typologie. Ça, c'est une discussion que vous avez eue dans l'équipe. Et puis,
ouais. Le traitement de l'information, en fait, il est possible, mais je l'ai pas vu.
Tu l'as pas vu carrément.
Je l'ai pas vu.
D'accord.
Parce que en SVT, ça existe.
Oui, voilà, c'est ça. Oui.
Mais comme nous, la sortie terrain est pas obligatoire. Peut-être aussi. Si il y a Sébastien Catala qui l'a fait, mais c'est. C'est vraiment à la limite de la géographie, quoi.
D'accord. Après, moi, je me suis posé la question de... Bon, tu as regardé, en fait, ce qui était publié, donc ce n'est pas forcément représentatif de ce qui se fait dans la mesure où on imagine qu'il y a plein d'enseignants qui font des choses et qui ne publient pas, parce que ces chiffres sont assez différents de l'enquête en termes d'utilisation d'outils, etc. Je ne suis pas finalement très étonné que Google Earth arrive beaucoup plus en avant, parce que finalement, tu fais beaucoup plus de choses avec Google Earth. En fait, tu vas pouvoir, en particulier, créer tes propres jeux de données.
Plus facile de partager avec Google Earth, parce qu'avec Géoportail, maintenant, peut-être avec l'API, ça va être différent. Mais avec Géoportail, qu'est-ce que tu veux faire? Tu présentes ta séquence, mais tu ne peux pas préparer
ton... Tu peux pas faire un KMZ que tu vas donner à tes collègues.
Voilà. Ouais. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se font sur Géoportail, mais qui sont encore secrètes, parce qu'ils vont sortir dans l'espace de mutualisation des deux Géo ou quelque chose comme ça.
Moi, j'aurais une suggestion pour les mots-clés, c'est de rajouter KMZ dans tes mots-clés, justement.
Ouais.
Parce que moi, je l'ai déjà fait, et là, tu vois beaucoup de KMZ qui sont sur les... Donc, tu tombes sur les séquences. Et la question que je me posais aussi, c'est que tu as regardé ça en France uniquement, ou francophone, ou je sais pas. Est-ce que tu as regardé? Parce que je me suis abonné récemment à la liste de diffusion de Google Teacher, je sais pas quoi, où, en fait, les Américains, et puis, en fait, le monde entier, maintenant, commencent à mutualiser, à partager
leur... En Angleterre, il y a beaucoup de choses qui se font en géographie. C'est vraiment être prof de géo en Angleterre, ça doit être difficile parce qu'ils sont formidables. Ils font beaucoup de choses, mais le problème, c'est qu'après, dans notre fiche, on centre ça sur nos programmes. Et donc après, c'est très, très difficile. Donc j'ai gardé les choses qui étaient adaptables à ce que nous, on pouvait faire, si tu veux. J'ai pris malgré tout un jeu de rôle sur la... un jeu de piste sur la Russie en 1917. Mais bon, c'est parce que je pense que c'est transposable à d'autres sujets, mais... ils font des trucs super, hein. Ouais. Google Lit Strips, là, c'est des élèves qui lisent des romans et qui créent leur machin, leur KMZ. Il y a plein de choses, mais il faut que ce soit adapté. C'est pareil, j'ai pris des choses au Québec, ils font plein de trucs super au Québec. Mais voilà, il faut que ça puisse être...